vous êtes trop jeune pour avoir écouté Edith Nilon. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Europe aurait-elle pu mieux faire pour financer la crise sanitaire engendrée par le Covid-19? Un eurodéputé entame sa troisième semaine de grève de la faim aujourd'hui. Pierre Larouturou demande une taxe sur les transactions financières, même si Bruxelles, vous l'entendrez, avance sur le sujet.
Pendant ce temps, le PDG du laboratoire Pfizer a gagné plus de 5 millions de dollars en bourse. Explication dans ce journal.
Les contaminations au Covid-19 sont toujours en hausse chez les moins de 20 ans en France. Se pose la question aujourd'hui de la fermeture des lycées et de la réouverture ou non des petits commerces.
Jean Castex fera le point en effet sur le confinement politiquement. Il a le choix entre plusieurs mauvaises solutions, c'est ce que nous dira Frédéric Saïs dans son billet politique à 8h16.
Avant cela, Guillaume, nous irons en Hongrie où Viktor Orban veut cimenter le genre dans la constitution hongroise. Le Premier ministre souhaite en fait définir le sexe d'une personne comme étant uniquement celui de la naissance. À l'heure où les budgets nationaux explosent, où l'on déplafonne les dettes pour parer aux crises sanitaires et économiques qui touchent tous les pays ou presque, un eurodéputé entame donc sa troisième semaine de grève de la faim aujourd'hui. Pierre Larouturou demande une taxe sur les transactions financières. Cette semaine, le Conseil européen et le Parlement se sont bien mis d'accord sur cette idée, la renvoyant à 2024 au plus tôt. On perd encore du temps, regrette le fondateur du mouvement Nouvelle Donne, élu sur la liste socialiste au Parlement européen de Raphaël Glucksmann. C'est pour la crise sanitaire qu'il fallait, selon lui, débloquer de l'argent. Il s'en explique au micro de Stanislas Vazak.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour la recherche ou pour l'emploi, alors que les marchés financiers n'ont jamais été aussi hauts. Plus 7% la semaine dernière sur les marchés financiers en une semaine, c'est du jamais vu. Et les chefs d'État, Mme Merkel, M. Macron, refusent de taxer la spéculation. C'est une des demandes très fortes du Parlement et une toute petite taxe sur la spéculation, 0,1%, donnerait chaque année entre 50 milliards et 60 milliards. Et si on a 50 milliards de plus sans taxer les citoyens, on peut aider vraiment les hôpitaux, on peut mettre le paquet sur le climat et sur la recherche. Donc il est urgent d'agir et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je viens d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive, il ne se contente pas de beaux discours. Il veut créer des millions d'emplois, il va tripler le budget fédéral. Il fait un impôt sur les millionnaires, il fait un impôt sur les grandes entreprises. Les banquiers sont furieux et hurlent en disant que Roosevelt est un communiste. Mais Roosevelt a sauvé la démocratie, a sauvé la cohésion sociale au moment où l'Europe allait vers la barbarie.
Pierre Larouturou qui entame donc sa troisième semaine de la grève de la faim dans les couloirs vides du Parlement européen. Son discours et son acte agacent pendant ce temps Bruxelles où l'on préfère là tenter de forger des majorités par le compromis et le dialogue plutôt que le passage en force, dit-on, dans les couloirs. Là, c'est un acte fort que veulent faire plusieurs États et plusieurs fondations, dédier plus de 500 millions d'euros à l'achat de futurs vaccins anti-Covid pour les pays en voie de développement. L'annonce a été faite ce matin pour l'ouverture du Forum de la paix à Paris. Cela devrait permettre d'acheminer 100 millions de doses pour, à titre de comparaison, pour un dixième de la population africaine. L'espoir d'un vaccin, d'ailleurs, est né cette semaine. Après une première annonce de réussite, les laboratoires allemands BioNTech et américains Pfizer parlent d'une efficacité de 90%. Et l'on apprend que le patron de Pfizer a vendu cette semaine aussi des actions pour plus de 5 millions de dollars. Est-ce un hasard de calendrier? En tout cas, rien n'est illégal. Comme nous l'explique notre correspondant à Washington, Gregory Phillips, il revient sur le déroulé des faits.
Ce lundi, en début de matinée, Pfizer annonce dans un communiqué que selon les résultats préliminaires de sa phase 3 de test, le vaccin que le laboratoire est en train de préparer est efficace à 90%. Immédiatement, l'action du groupe s'envole et gagne 7% à Wall Street. Le même jour, selon des documents déposés auprès des autorités boursières américaines, le PDG du laboratoire, Albert Bourla, se sépare de plus de 130 000 titres Pfizer. Il empoche immédiatement 5,6 millions de dollars. La vice-présidente, Sally Sussman, fait de même et cède plus de 43 000 actions. Elle gagne en quelques secondes presque 2 millions de dollars. Interrogé par les médias américains, un porte-parole de l'entreprise explique que l'opération est transparente et qu'il n'y a rien d'illégal. Ces ventes étaient programmées depuis plus d'un an et automatiques à partir du moment où l'action dépassait un certain prix. C'est ce qui s'est passé lundi avec une volonté des dirigeants de Pfizer de diversifier leur portefeuille boursier.
Grégory Philips, et pour ce qui est de la commercialisation d'un éventuel vaccin contre le SARS-CoV-2, elle pourrait commencer au premier trimestre 2021 en Europe. Voici l'estimation de la directrice du Centre européen de contrôle des maladies dans un scénario optimiste, précise-t-elle, car la situation européenne, selon elle, est toujours très inquiétante. Cette situation est inquiétante notamment en France, avec un nombre de malades toujours important. Le nombre d'hospitalisations est maintenant sensiblement le même qu'en avril dernier. Plus d'un patient sur cinq est en réanimation. Ce jeudi, après un conseil de défense à l'Élysée, c'est le Premier ministre Jean Castex qui prendra la parole à 18h. Il sera question de l'assouplissement ou du durcissement du confinement, et notamment dans les lycées, car les contaminations augmentent en ce moment chez les moins de 20 ans. Est-ce suffisant d'organiser au lycée la moitié des cours en demi-groupe ou à distance ? Non, répond ce matin l'épidémiologiste Mircea Sofana au téléphone d'Hélène Chevalier. Il est spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses à l'Université de Montpellier.
Pour les lycéens, il n'a jamais été question de les différencier du reste des adultes. Ça, c'est une aberration. Nous, on a fait une rentrée quasi normale.
Et là, le fait de dédoubler les classes ?
Oui, mais ce sont des rustines, tout ça. Maintenant, c'est trop tard. C'est vraiment un problème politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite soit rester dans ces conditions-là, qui sont relativement légères, avec des lycéens qui vont en cours. Et ça veut dire on en ressort très tard de ce confinement, fin janvier. Soit on veut en ressortir beaucoup plus tôt. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de le durcir. Et la première étape, ça serait d'arrêter les cours dans le secondaire.
Fermer les lycées pour certains, mais rouvrir les restaurants pour d'autres. Les professionnels de la restauration jouent leur survie. Jean Castex ne devrait pas annoncer ce soir une réouverture pour les 15 prochains jours. C'est une catastrophe, nous explique déjà Julien Signoret, directeur d'un restaurant qui livre en ce moment entre Aix-en-Provence et Marseille. Il est interrogé par nos confrères de France Bleu Provence.
15 jours supplémentaires, c'est... À nouveau 15 jours avec 80% de chiffres en moins. Nous, aujourd'hui, on est là pour nos clients, mais même ouvrir n'est pas rentable. On a la majorité de nos salariés qui est au chômage partiel. Donc, on fonctionne à peu près avec un quart de notre équipe. On est déjà dans une situation où on doit taper dans notre trésorerie. Si jamais on nous prive de décembre et derrière, imaginons des soldes de début janvier, on va dans une situation très compliquée. Je pense que toutes les entreprises dans notre situation seraient en danger, évidemment.
Les magasins de jouets veulent également être entendus ce matin. Ils souhaitent pouvoir d'ailleurs rouvrir dès demain pour éviter, disent-ils, de doubler la fréquentation en décembre avant Noël dans tous ces magasins de jouets. Ce matin, Anne-Laure Jumet interrogeait les petits commerçants sur leur utilisation d'Internet, notamment pour s'en sortir et pour organiser des ventes à distance. Un reportage de la rédaction à retrouver sur franceculture.fr à l'aube donc d'un bilan fait ce soir par le Premier ministre. C'est peut-être un tournant dans l'enquête sur un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, campagne de Nicolas Sarkozy. Ziad Takieddine, l'un des principaux témoins à charge contre l'ancien président, retire ses accusations. Il s'était réfugié au Liban pour échapper à la justice française et il a donc parlé hier via une vidéo, Florence Turm.
Je le dis haut et fort, il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Sarkozy. Face à la caméra, Ziad Takieddine met également en cause l'ancien juge d'instruction en charge du dossier, Serge Tourner, qui a, dit-il, bien voulu me faire dire des propos totalement contraires à ce que j'ai dit. Ces déclarations prennent le contre-pied radical des accusations que le sulfureux homme d'affaires franco-libanais a réitéré à plusieurs reprises, non seulement devant les magistrats instructeurs, mais également face à la presse, avec force détails. Il a affirmé avoir lui-même porté les valises et remis 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet, Claude Guéant, entre fin 2006 et début 2007. Ces accusations frontales ont pesé lourd dans ce dossier où Nicolas Sarkozy s'est vu mis en examen pour financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs après 8 longues années d'instruction. En septembre dernier, la Cour d'appel de Paris a d'ailleurs validé les investigations menées par les magistrats et rejeté une série de recours en nullité formulés par la défense de l'ancien chef d'État. Logiquement, ce revirement spectaculaire devrait inciter les juges à auditionner à nouveau Ziad Takieddine, lui-même mis en examen dans ce dossier, mais il a tenu ses propos depuis Beyrouth où il est réfugié après sa condamnation par la justice française à 5 ans de prison ferme dans le volet financier de l'affaire Karachi. Le 15 juin dernier, jour de l'énoncé du jugement, il était absent de l'audience et se trouve désormais visé par un mandat d'arrêt.
Et j'ajoute que Nicolas Sarkozy lui a déjà réagi hier en écrivant sur les réseaux sociaux « La vérité éclate enfin ». L'ancien président de la République demande sa démise en examen. Il annonce aussi son intention d'engager une procédure pour dénonciation calomnieuse contre Ziad Takedine.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le Premier ministre hongrois veut modifier la constitution de son pays.
Oui, pour y inscrire, je cite, « La mère est une femme, le père est un homme ». Viktor Orban veut ainsi interdire dire à tout Hongrois qui a changé de sexe de faire modifier ses papiers d'état civil pour qu'il reflète sa nouvelle identité. Le gouvernement nationaliste explique qu'il souhaite en fait protéger les enfants face aux minorités sexuelles et il devrait y parvenir, Florence Labruyère.
La modification de la Constitution, qui sera sûrement entérinée par la majorité de Viktor Orban, est un véritable retour en arrière. Car depuis le début des années 90, un citoyen hongrois avait parfaitement le droit de faire modifier ses papiers pour y indiquer sa nouvelle identité sexuelle. Un droit confirmé par la Cour constitutionnelle hongroise en 2018. Or, cette décision de la Cour n'a pas été du goût de Viktor Orban. En mai dernier, il a fait voter par sa majorité une loi qui empêche un citoyen de faire changer son identité sexuelle sur ses papiers. Puisque cette loi existe, pourquoi la recopier dans la Constitution ? Pour deux raisons. D'abord, cette modification ligote la Cour constitutionnelle, car ce qui était anticonstitutionnel est désormais gravé dans le marbre. Ensuite, cette modification intervient à un moment où Budapest s'oppose à une proposition des eurodéputés. Ces derniers ne veulent plus verser d'argent aux pays qui ne respectent pas les valeurs de l'Union européenne, notamment les droits des minorités sexuelles. En bafouant ouvertement les droits des transgenres, Viktor Orban envoie un message clair à Bruxelles et aux dirigeants européens. Pas question que l'Europe dicte sa loi, semble dire l'homme fort de Budapest. Et Viktor Orban a d'autres projets dans ses tiroirs. La ministre de la Famille a annoncé qu'elle souhaitait interdire aux célibataires d'adopter des enfants s'il s'avère que ces célibataires sont homosexuels.
Florence Labruyère depuis Budapest pour France Culture. En Pologne, c'est en pleine contestation pour défendre le droit à l'avortement que l'extrême droite a paradé dans les rues de Varsovie hier. Elle y a célébré l'indépendance du pays avec un slogan cette année, notre civilisation, nos principes. Manifestation sans masque ni distance physique qui a fini en affrontement avec la police. Les hôpitaux américains sous pression en ce moment face à la flambée de Covid-19 aux États-Unis. De nouvelles mesures sont donc prises, comme des couvre-feux locaux pour certains commerces à New York. Et puis sachez que parallèlement, le président élu Joe Biden accélère la transition pour entrer à la Maison Blanche en nommant son futur chef de cabinet. Il s'agit de Ron Klain, qui fut déjà à ses côtés lorsqu'il était vice-président à partir de 2009. Un employé consulaire grec et un policier saoudien ont été légèrement blessés hier à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Un attentat à l'explosif y a visé des diplomates occidentaux pendant les commémorations du 11 novembre. En France, 102 ans après l'armistice de la Première Guerre mondiale, 100 ans après l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, l'écrivain mémorialiste de la Grande Guerre, Maurice Genevoix, est entré au Panthéon hier. Avec lui aussi, tous les poilus, tous les soldats morts au combat. Ce matin, certains enseignants en profiteront pour aborder en classe Maurice Genevoix, au collège ou au lycée. Un cours sur un grand témoin et surtout sur un observateur de la nature, Cécilia Arbona.
La Grande Guerre fait partie des passions d'Alain Chiron, professeur d'histoire-géographie, qui est aussi président de la Maison internationale des écritures et des littératures. Ce matin, à ses élèves, il parlera de Maurice Genevoix, le poilu poète, amoureux des arbres et des animaux.
Moi, je pense toujours aux premières nouvelles qui se trouvent dans Bestiaire sans oubli, qui est l'Alouette, où on a donc un homme qui se promène dans les forêts de la Veuvre. Il allait rejoindre le front. Il se raccrochait en fait à ce qu'il y a de plus beau, peut-être dans la vie d'un homme, en tout cas pour lui, qui était cette approche de la nature environnante et confortante.
Un texte qui a touché aussi Elisabeth Deveau, professeure de français.
C'était des alouettes huppées, coiffées à la paysanne, en l'occurrence à la meusienne. Le toupet sur la tête et l'œil de côté. Il y avait à ma gauche la forêt, les colonnes grises de la hêtraie, qu'argentait à l'orée le calme jusant du jour. De loin en loin, vigie au bord de la plaine basse, un groupe de sapins sourcilleux.
Parler de Maurice Genevoix aux collégiens, ici, à Angers, prend tout son sens, poursuit Alain Chiron.
Nous sommes les héritiers de cette histoire, nous sommes construits culturellement par ces glorieux personnages qu'on trouve aujourd'hui au Panthéon. Donc vous avez quand même le fronton qui a été sculpté par notre sculpteur angevin David d'Angers. Ça fait doublement sens parce qu'on a le plâtre qui se trouve exposé donc dans notre ville.
Angers, berceau du sculpteur Pierre-Jean David, qui a réalisé en 1830 le fronton du Panthéon.
Cécilia Arbona. Il y aura peu de pluie ce jeudi, excepté ce matin sur une partie de la Bourgogne, mais le temps sera sec par ailleurs, relativement ensoleillé et doux surtout, avec 9 degrés ce matin à Rennes et à Strasbourg, 11 à Lille, Paris et Lyon, 15 degrés à Marseille, comptez 14 à 18 degrés cet après-midi du nord au sud, Guillaume.
On compte dessus, merci Clara Lecoq-Réal. 8h15 sur France Culture, dans 30 minutes, mes camarades Hervé Gardat, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte vous apporteront leur vision de la transition, de la philosophie et de la parole des artistes. En parlant de la parole des artistes, et bien dans quelques instants, nous serons en compagnie de Luz et des Pentes. Vernon Subutex paraît en bande dessinée, en roman graphique. C'est chez Albin Michel et c'est très bien. Et puis de la politique avec vous, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Jean Castex fait donc le point sur le confinement ce soir. A priori, pas de grands changements et pour cause, il n'y a en fait que des mauvaises solutions.